Oh, tu peux pas parler moins fort.
Mais Mimi, je m'entraîne pour l'émission.
Ce qui est intéressant avec les questions féministes, c'est qu'elles peuvent se glisser un peu partout. Dans un débat politique, une salle de classe, un repas de famille ou dans un roman. Et quand elles se glissent dans un roman, elles prennent parfois une autre forme, elles deviennent des visages, des corps, des destins, des dessins. On parle de femmes d'hier, mais c'est bien d'aujourd'hui qu'il s'agit, parce qu'en racontant celles d'avant, on éclaire souvent ce qu'on vit maintenant sans forcément le dire. C'est ce que fait Maria Daligo, je crois, dans son premier roman Blanche, Le cycle des Orantes, un texte qu'elle a écrit aux côtés de Séverine Baudry, qui illustre ce texte, une fiction qui se passe en pleine guerre de 100 ans, mais qui parle de résistance, de choix, de lumière, bref, de liberté. Et c'est là que ça devient beau, quand la littérature cherche surtout à faire ressentir, à faire remonter tout doucement ce qu'on pensait avoir déjà compris. Maria, aujourd'hui, vous êtes avec nous dans le studio de l'autre radio. Bonjour et merci d'être là pour nous parler de cet ouvrage.
Bonjour Margot, merci de cette belle introduction, c'est vraiment super.
Puis en seconde partie d'émission, restez avec nous, on vous propose une rediffusion du tout premier Pensée locale de la saison, un épisode que j'avais réalisé ici à Laval. On y parle d'un projet qui interroge notre rapport au travail, à l'utilité, à la dignité aussi. On parle de territoire zéro chômeur de longue durée et de son expérimentation dans le quartier du Grand Saint-Nicolas. Comment une idée devient une réalité locale, comment on transforme le coût du chômage en emploi utile, adapté aux habitants d'un quartier. Pour y répondre, on entendra Patrick Valentin à l'origine du projet, Taous qui a pu en bénéficier, puis Claude Baquet, le réalisateur du film Utopie Zéro Chômeur. Trois regards, trois voix pour comprendre ce que cette utopie devient ici sur notre territoire. Voilà, votre émission quotidienne commence maintenant. Je suis Margot, c'est la JT du local, vous le savez bien. Eh bien, je vous propose de passer maintenant à l'entretien du jour.
Vous écoutez la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. Il y a des livres qui font voyager dans le temps sans quitter le présent. Blanche, le cycle des Orantes de Maria Daligo en fait partie. En pleine guerre de 100 ans, une fillette devient femme dans un monde où la peur brûle ceux qui pensent, ceux qui rêvent, surtout celles qui refusent de se taire. Avec l'illustratrice Séverine Baudry, Maria, vous signez un roman où l'imaginaire devient peut-être un acte de résistance, vous allez nous le dire. Déjà pour commencer, Blanche, le cycle des Orantes, c'est votre tout premier roman. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'univers, de l'époque et de cette histoire que vous nous racontez, Maria ?
Alors déjà, je vais commencer par quelque chose. Je vais commencer par dire que Séverine Baudry n'est pas que l'illustratrice de ce roman et qu'il s'agit véritablement d'une co-création. Nous avons vraiment travaillé en binôme tout du long. Donc voilà, j'y tiens. Donc, c'est important. Deux femmes pour un portrait de femme, c'est vrai. Alors l'histoire se déroule, c'est vrai, au Moyen-Âge, il y a bien longtemps. Mais je trouve qu'il y a vraiment de nombreux échos aujourd'hui. Après, c'est au lecteur de tisser des liens, ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est ça. L'histoire d'hier a encore de nombreux échos aujourd'hui, c'est sûr.
Vous venez de le dire, elle se déroule donc en pleine guerre de 100 ans, à Sainte-Suzanne, dans un cadre bien réel. Mais c'est pas vraiment un roman historique puisque vous y mettez de la fiction. Il y a une relation entre l'histoire et puis l'imaginaire.
Oui, alors c'est vrai. D'abord parce que je ne suis pas historienne déjà, j'ai fait forcément quelques recherches. C'est sûr, de nombreuses recherches. J'ai quand même un petit peu travaillé pour ne pas dire trop n'importe quoi, on va dire. Mais ce qui est certain, c'est que c'est surtout ce qui est sorti de moi au niveau de l'écriture. C'est vraiment cette part d'imaginaire, de fiction, et certainement un lien avec ma propre réalité ou la réalité d'aujourd'hui, c'est sûr.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger au cœur de cette époque précise ?
Alors c'est assez étrange parce que ça commence par une simple balade à Sainte-Suzanne, tout près de chez moi. Avec une amie, Séverine Baudry. Nous sommes toutes les deux là, sur les remparts. On s'assoit sur un banc et on parle de nos lectures, de nos goûts littéraires, de ce que l'on aimait lire lorsque nous étions petites. Et l'on vient naturellement à parler des romans illustrés pour enfants. Et puis l'une comme l'autre, on se dit, mais chiche, et si l'on faisait ensemble un roman illustré, mais pour les adultes, parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mmh. On a, je crois, en tout cas, beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est comme ça que ça se fait.
Je le disais tout à l'heure, Blanche, c'est une fillette, une jeune fille qui devient femme dans un monde de guerre, de chasse aux sorcières, d'injustice. Est-ce que ce personnage, vous aviez envie d'en faire une figure de résilience? Comment vous avez construit ce personnage-là? D'où il vient?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais en tête depuis longtemps déjà des portraits de femmes. C'est pas venu comme ça. Enfin, j'avais déjà depuis longtemps commencé à écrire, mais pour moi, toute seule, des portraits de femmes. Des portraits de femmes rebelles. On peut dire ça comme ça, ou tout simplement des femmes aimantes dans un milieu pas si simple, un monde difficile quand même, où l'amour n'a pas toujours sa place. Et donc le portrait de Blanche, et particulièrement le Moyen-Âge, est venu en lien avec la cité de Sainte-Suzanne. J'en ai d'autres en tête, mais celui-là, celui de Blanche, est vraiment lié au lieu, et aux peintures aussi que faisait à ce moment-là et que fait encore Séverine Baudry, puisqu'à ce moment-là, elle travaillait sur des cartes postales, elle réalisait des cartes postales pour la cité de Sainte-Suzanne, et c'est vrai, sur la thématique très médiévale. J'adore ce qu'elle fait, hein, forcément. et donc, j'ai vu l'une de ces cartes postales et j'ai vu une femme, une jeune femme sur un banc en pierre avec un chevalier dont la chevelure s'étalait devant le home, passait devant le home. Le portrait de cette femme forte, libre avec le vent dans les cheveux, c'est de là que vient Blanche, voilà. C'est de là que ça vient.
Le titre complet, on l'a dit, donc le sous-titre, c'est Le cycle des Orantes. Les Orantes, qu'est-ce que c'est pour l'auditeur qui ne connaît peut-être pas ce mot-là?
Alors les Orantes, c'est venu très vite. Le fait de... en fait, déjà, les Orantes, c'est vrai, excusez-moi, c'est d'abord en art, enfin bref, au niveau pictural, on retrouve des sculptures, en peinture, des personnages masculins ou féminins en position d'orant ou d'orante, donc les mains levées vers le ciel, ou en position de prière. Donc orare, c'est la prière, hein, prier. Le cycle des Orantes, c'est vraiment des femmes qui ont envie de lancer des appels, en fait, qui lancent des appels, qui prient, pas pour un dieu spécial, mais voilà, en position de prière.
Dès le début du roman, cette position apparaît en lien avec le personnage de Blanche, mais on ne va pas trop en révéler. Si vous avez donné ce sous-titre-là, Le cycle des Orantes, j'imagine, c'est que vous avez imaginé plusieurs Orantes. Vous l'avez dit, cette histoire commence avec finalement plusieurs femmes, plusieurs histoires qui vous sont venues. Il y aura peut-être une suite.
Alors oui, il y a une suite, en tout cas déjà, nous sommes déjà plongés dans une suite, parce que assez bizarrement, lorsque Blanche est sortie de l'impression, lorsque le livre était entre nos mains, et même avant, lorsque le manuscrit a été remis à l'éditeur, en fait on s'est sentis mais comme vides l'une et l'autre, c'était assez étrange. Avec un manque, un véritable manque qu'on avait très vite et on a très vite envie de s'y remettre, cet aspect créatif. En fait, on est plongé dedans, on vit. J'ai vécu, j'ai dormi et je pense que je peux parler pour deux. On a vraiment mangé Blanche tous les jours, c'était quelque chose. Donc, c'est un besoin.
Pour l'auditeur de l'autre radio qui va se plonger, lui, en tant que lecteur, dans ce roman, on peut lui dire qu'il va se retrouver un peu entre réalisme et fantaisie. Il y a une place au fantastique dans votre écriture qui a été importante, Maria.
Oui, alors déjà parce qu'il faut reconnaître que j'avais envie de toucher particulièrement les grands ados. Je voulais que ce livre parle aux jeunes. Aux grands ados, pas aux jeunes ados, parce que je pense que c'est un petit peu difficile tout de même à lire. Pas pour le niveau de lecture seulement, mais aussi parce que c'est quand même un peu... c'est violent, c'est une période violente, donc c'est pas fait pour les enfants, ça c'est sûr. Et puis, en fait, je m'aperçois que ça touche aussi énormément les adultes. Il y a beaucoup d'adultes, des personnes même d'un certain âge qui viennent vers nous et qui nous disent être touchés par le livre. Donc, ça fait beaucoup de bien, c'est sûr. On se dit qu'on n'a pas écrit ça pour rien. Et ce qui revient beaucoup, et je ne m'en étais pas aperçue, mais c'est vrai, c'est cette sensation... Lorsqu'on lit le livre, c'est peut-être cette sensation d'urgence. Urgence à dire quelque chose. Cette femme a envie d'exprimer très vite, très tôt, en fait, dès son plus jeune âge, sa différence et son droit à la différence. Voilà. On a le droit d'être différent. On a envie d'être femme, d'être homme, en toute paix, en toute quiétude, d'être soi simplement, de vivre la vie comme on veut, dans le respect des autres, toujours dans le respect des autres. Et c'est, je pense, cette liberté-là qui, effectivement, tu l'as dit dès le départ, Margot, est au centre du livre.
Et un féminin qui est aussi dans le respect de la nature, c'est important, ça se ressent, c'est très fort et très subtil dans ce texte. Maria, vous nous l'avez dit, vous avez travaillé donc avec l'illustratrice Séverine Baudry, vous avez travaillé main dans la main. Elle signe des images, des illustrations très marquées. Pour l'auditeur qui n'a pas le livre sous les yeux, comment est-ce que l'on peut décrire le style de ces illustrations, Maria? Vous en avez dit quelques mots, puisque finalement, vous avez été séduite aussi par son travail avant même l'écriture de cet ouvrage.
Ben oui, effectivement. Alors bon, je vais essayer de ne pas trahir son propos, mais Séverine n'est pas là aujourd'hui. Mais effectivement, j'adore ce qu'elle fait, hein, forcément. Et en fait, elle travaille sur fond noir. Donc sur fond noir, et elle fait ses esquisses et ensuite elle les peint à l'acrylique. Donc c'est un vrai travail quasiment de vitrail. Elle n'a pas eu l'envie de faire ça comme un vitrail. Mais en fait, ce qui ressort de ça, c'est l'impression d'être, de voir à l'intérieur d'une église, d'un lieu de culte, peu importe, un vitrail. Donc des scènes comme on pourrait en voir effectivement dans un lieu de culte. Et moi, je trouve que ça collait parfaitement avec ce personnage de Blanche. Donc, le personnage de Blanche s'inspire de son travail. Son travail s'inspire aussi de mon écriture. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, en tout cas. Donc, elle a plongé dans l'écriture avec moi, enfin, dans la lecture avec moi. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a une véritable co-création. Donc oui, l'aspect fantastique et fantaisie, je n'en ai pas parlé, mais oui, c'était important pour moi parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. Et que ce lien au vivant, que ce soit un arbre, une plante, un animal, l'homme est un animal, c'est essentiel. C'est l'essence même du monde. Donc, avant de regarder même au-delà de nous, peut-être regarder autour de nous, car il y a beaucoup de choses à découvrir, d'énergie, de la vie, tout simplement, la vie, la beauté, la liberté, la vie.
Vous êtes deux à nous avoir permis, à nous permettre de regarder autour de ce personnage de Blanche. Le livre est ponctué des illustrations de Séverine. Comment est-ce qu'ont été choisis ces moments, ces scènes illustrées? Est-ce qu'elles reviennent effectivement sur des temps forts? C'est toujours un plaisir. On se coupe quelques minutes de la lecture pour observer la scène qui est racontée par l'image. Comment est-ce que vous avez choisi ensemble? Ou est-ce que c'est Séverine peut-être qui a dit ce temps-là, je trouve que c'est important de le...
Alors oui, c'est vraiment une très très bonne question, parce qu'en fait, au départ, donc j'écris, puisqu'il lui faut quand même du grain à moudre, donc j'ai peur de la décevoir, parce qu'elle ne m'avait pas lu. Donc je découvre qu'elle n'est pas déçue, et qu'au contraire, elle est touchée. Donc ça déjà, c'est un premier bonheur pour moi. Nous allons très vite vers un éditeur qu'elle connaît, et qui lui-même nous dit, mais allons-y les filles, il y a quelque chose, travailler ensemble. Je tiens à dire qu'il nous a porté aussi cet éditeur. Donc voilà, les éditions Charnier et compagnie, on en parlera peut-être. Mais en tout cas, oui, nous sommes trois. Et Séverine a lu, et m'a demandé de lire chapitre par chapitre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un chapitre était terminé, je lui livrais et elle le découvrait. Et ensuite... ou pendant, même avant, elle construisait des choses à partir de son propre imaginaire. Et en fait, dès le départ, je dis que c'est Blanche qui peint. Donc, ce travail était un peu schizophrénique parce que moi, je me mettais à la place de Blanche et elle aussi se mettait à la place de Blanche. Quelle scène est marquante pour Blanche ? Qu'a-t-elle envie de montrer, de sortir d'elle-même ? Et donc, c'est comme cela qu'elle a travaillé. Donc, on voit Blanche dans certaines scènes comme si elle se...
Se regardait
elle-même dans un miroir, dans ses souvenirs. Elle se plonge dans ses propres souvenirs.
À travers le récit, mais aussi à travers l'éditeur, c'est intéressant d'en parler. On sent que vous avez toutes les deux choisi de rester proche de votre territoire. Le livre est édité donc, avec Charny et compagnie. Il est distribué aussi chez les libraires indépendants de la Mayenne et de la Sarthe. C'est un choix important quand on est autrice.
En tout cas, pour nous, oui, parce que, écoutez, pour ne pas les citer et ne pas leur faire de publicité, face aux mastodontes de l'édition, on n'est pas grand-chose. Donc ça, c'est évident. Et que faire ? Donc effectivement, on peut quand même se faire éditer très facilement, via des plateformes, etc. On peut être édité. Ou alors, on passe par ce que moi j'appelle les paysans du livre. Pensée collective, c'est aussi ça. Donc ça nous semblait être une évidence. Il nous fallait passer par des librairies indépendantes, donner du grain à moudre. Que chacun, chaque battement d'aile compte, donc, que chacun y trouve sa part, on prenne une part. Et l'accueil des libraires a été vraiment très chouette. Lorsqu'ils ont découvert Blanche, à chaque fois, on a eu le même... Donc, ça nous a confortés aussi. Sans fausse modestie, on a été vraiment bien accueillis par les libraires. Donc, dans toute la Mayenne, vous l'avez dit, c'est vraiment très bien démarré. Ce qui fait que l'on s'est exporté en Sarthe. Donc, Blanche s'envole vers la Sarthe. Ça peut paraître peu. Et à la fois, ça nous semble énorme. C'est énorme, voilà. Ça va. Ça se passe bien.
L'importance d'être ancré dans le territoire, c'est peut-être aussi le moment où on va à la rencontre des lecteurs. Il y a des séances de dédicaces qui sont prévues, des temps d'échange aussi, donc avec le lecteur ou le potentiel futur lecteur. Ça a déjà commencé, je crois, le 11 octobre à Évron. Le prochain rendez-vous que vous nous donnez, c'est à Laval, à la librairie Amir, le 8 novembre. Il y a d'autres rendez-vous de prévus aussi, Maria ?
Oui. Alors oui, parce que du coup, on a reçu des messages et puis aussi on a des gens qui nous ont demandé si on pouvait et donc c'est vrai que le planning donc c'est chargé jusqu'à Noël sans qu'on s'en rende bien compte. Donc le 15 novembre, donc on sera à Sainte-Suzanne, à la bouquinerie de Sainte-Suzanne. Donc le 29 novembre, on sera toute la journée le matin à la médiathèque de Loué pour une rencontre lecteur-auteur et l'après-midi au marché de Saulges. Pour une séance de dédicace aussi. Le 6 décembre, nous serons sur Le Mans, à la librairie Thuard, de 11h à 12h30. Et le 14 décembre, on sera tout naturellement au marché de Noël de Sainte-Suzanne, voilà, parce que c'est le lieu, et que là, finir l'année sur Sainte-Suzanne, c'est bien aussi. Voilà.
Et pourquoi pas avoir en tête dès maintenant la possibilité, l'opportunité d'offrir à un de ses proches ce roman Blanche, le cycle des Orantes, puisqu'il est écrit pour les adultes, mais aussi pour les... Alors, pas les jeunes adolescents, vous l'avez dit, les grands adolescents, c'est important de le rappeler. C'est difficile ou pas d'écrire quand on écrit pour deux générations différentes et se dire on va s'adresser à eux, on va les capter, les captiver ?
Cette part de fantaisie, je l'ai vraiment glissée pour les plus jeunes, on va dire, pour les plus jeunes. Après, il semblerait qu'elle touche aussi les plus vieux, en fait. C'est cette part de magie, de sorcellerie, comme on veut. Parce que finalement, est-elle une sorcière ? Ça, voilà, au lecteur de se faire sa propre opinion et puis de voir au fur et à mesure du cycle des Orantes. Mais en tout cas, c'est un livre, je crois, intergénérationnel, vu le public qui vient vers nous. Donc ça, c'est plutôt une belle découverte. Même les personnes beaucoup plus âgées nous disent être profondément touchées par cet aspect fantastique, un peu magique du livre, du roman.
On a peut-être besoin de magie dans notre quotidien, parfois un peu terne, un peu gris, parfois anxiogène. Merci beaucoup, Maria, d'avoir été avec nous pour nous présenter votre tout premier roman, Blanche, le cycle des Orantes, que vous avez créé, construit, imaginé, aux côtés de Séverine Baudry et de l'édition Charny et compagnie. Merci d'avoir été avec nous. On a hâte de découvrir la suite.
Merci, merci beaucoup Margot, merci.
À bientôt Maria.
À bientôt.
On continue juste après pour l'auditeur de l'autre radio, infidèle de l'agité du local. Mais avant, on va faire une pause avec Bertrand Belin. J'avais envie d'écouter avec vous L'inconnu en personne et c'est maintenant.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam. Mais j'entends leurs pas dans le désert, j'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil, il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts, emporté dans la mort, l'amour, le carbone. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a une aux quatre vents qui regarde l'horizon. Il y en a deux sans solution parmi les renoncements. À l'âge de fer, il frissonne à l'air du pétrole. Lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
Depuis 2016, plusieurs territoires en France expérimentent territoire zéro chômeur de longue durée. À Laval, c'est le quartier du Grand Saint-Nicolas qui s'est engagé dans la démarche à partir de 2021. Ce dispositif transforme le coût du chômage de longue durée en emploi utile et adapté. Alors pour comprendre comment une idée se transforme en réalité locale, j'ai tendu mon micro à Patrick Valentin, à l'origine de l'idée, à Taous, bénéficiaire, et à Claude Baquet, réalisateur du film Utopie zéro chômeur. À travers leur voix se dessine un premier bilan de l'expérimentation lavalloise. C'est la rediffusion du tout premier Pensée locale de la saison pour un dispositif qui résonne particulièrement avec notre territoire. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Depuis mars 2021, Laval Aglo est candidate pour expérimenter Territoire zéro chômeur de longue durée dans le quartier du Grand Saint-Nicolas. Un film a été réalisé pour raconter cette démarche et sous différents angles, dresser un premier bilan de l'expérimentation. C'est l'occasion aujourd'hui de revenir sur ce qu'elle a changé pour le territoire, mais surtout pour celles et ceux qui l'ont vécu. Mais pour commencer, à l'origine de cette idée, Patrick Valentin, il raconte comment est née l'expérimentation et ce qu'elle change dans notre façon de penser le chômage de longue durée.
J'ai commencé en 1992. C'est l'idée que personne n'est inemployable, que ce n'est pas le travail qui manque, et qu'en plus, ce n'est pas l'argent non plus qui manque. Au lieu de dire « allez chercher du travail », on dit « nous, on va chercher des employés ». Et c'est avec ces personnes-là qu'on fera du travail. Donc on met les choses à l'envers en tant qu'employeur. Au lieu de se dire « il faut que je recrute pour tel poste », on dit « qu'est-ce qui est là et qui veut travailler et qui n'a pas de travail ?» Eh bien, je vais chercher à organiser du travail pour cette personne. Territoire zéro chômeur donne une place importante à l'autorité locale. Il faut que le maire ou l'élu local puisse présider le comité local pour que ça marche. On a besoin d'une autorité locale pour équilibrer les choses entre les différentes parties prenantes de l'économie. Il faut que tout le monde trouve sa place et il faut que personne se sente mal placé. Et pour ça, il faut un arbitre.
Oui, un arbitrage national serait incohérent.
Voilà, oui, l'arbitre est forcément local parce qu'il n'y a pas deux situations pareilles. Toutes les situations sont différentes les unes des autres et l'arbitre est justement là pour dire « bon, la règle c'est une chose, mais ici, chez moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Comme sur un terrain de foot, il faut un arbitre.
Mais derrière l'idée, il y a des vies comme celle de Taous, bénéficiaire du dispositif, qui raconte ce que ça a changé pour elle.
J'habite dans le quartier Saint-Nicolas sur Laval et j'ai intégré Territoire Zéro Chômeur depuis les tout débuts.
Tu as quel âge Taous aujourd'hui ?
Oula, j'ai peut-être 53, peut-être.
Quelle était ta situation, toi Taous, avant d'entrer dans le dispositif ?
Je connaissais pas trop le monde du travail. En même temps, ça me faisait un petit peu peur, mais je crois que c'est les chantiers d'insertion qui m'ont aidée à... Comme je suis quelqu'un qui est assez réservé, assez dans mon petit coin solitaire, donc j'appréhendais beaucoup.
Et alors comment est-ce que tu as entendu parler du dispositif et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer ?
C'est peut-être en venant fréquenter la maison de quartier, travailler à Bois Debout déjà, mais en restant en recherche d'emploi. Bois Debout, c'était un chantier d'insertion. Et là, j'ai entendu parler qu'il y aurait quelque chose qui allait se monter, Territoire Zéro Chômeur. En fait, c'était histoire de me dire que j'allais rentrer dans quelque chose où j'aurais un emploi stable, signer un CDI, et entre guillemets aussi choisir son temps de travail. Ça, c'était aussi important. À la base, j'ai intégré pour aller à la ferme.
Oui, puisqu'en parallèle de ce dispositif qui était en train de se monter, il y avait également la mise en place d'un projet de ferme urbaine dans Laval, plus précisément dans le quartier de Saint-Nicolas, justement.
J'ai appris à travailler le bois et tout, et c'est ça qui m'a fait un peu changer mes idées. Voilà, j'ai plutôt parlé bois, comme on parlait des différentes activités qu'il allait y avoir. C'est ça qui me motivait parce que j'allais rentrer dans un domaine qui me plaisait. J'avais l'opportunité de rentrer dans ce dispositif-là. J'ai eu peur et en même temps, j'étais boostée et hâte que tout commence et que tout hop, soit réel.
Et alors, depuis le début de cette aventure, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien ?
Ce qui a changé dans ma vie, en fait... C'est que j'ai une situation. Je suis rentrée à mi-temps, 26 heures, et il faut que je voie avec la directrice si je peux monter un peu dans mes heures.
Aujourd'hui, est-ce qu'il reste des difficultés que tu aimerais surmonter ou est-ce que tu as peut-être même envie plutôt de m'expliquer des difficultés que tu as surmontées grâce au dispositif ?
Je suis quelqu'un de réservé et tout, timide. En fait, depuis que j'étais rentrée à Territoire Zéro Chômeur, on faisait des réunions au début, ça c'était difficile. Mais après, voilà, au fil du temps, j'étais de plus en plus à l'aise.
Est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant dont tu aurais envie de nous parler ?
Quand Lucie m'a appelée pour venir signer mon contrat, c'est écrit quoi, ça y est. Ça et un autre petit truc tout bénin, hein, mais la fois où on m'a fait confiance pour conduire la camionnette. parce que je ne conduis jamais. J'ai le permis, ouais, mais je ne conduis pas. Ça s'est bien passé.
Après cette expérience, est-ce que tu as des projets aujourd'hui que tu n'aurais pas forcément imaginé avant ?
Je ne sais pas, j'aurais eu envie de passer un examen ou un diplôme, une formation, quelque chose quoi, pour être dans la menuiserie. C'est quelque chose qui m'aurait intéressé. Et après, plus tard, de me dire, tiens, voilà, tu as commencé tard dans ta vie, mais tu as ça aujourd'hui.
Comme Taous, d'autres bénéficiaires ont trouvé une place grâce au dispositif. Pour garder une trace de ses parcours et en tirer un premier bilan, un film a été réalisé à Laval. Son titre, Utopie zéro chômeur, son réalisateur, Claude Baquet, pose un regard extérieur sur cette expérimentation.
Le projet était, dans ma tête, une espèce de pari, finalement, de croiser plusieurs niveaux de paroles, d'une certaine façon, les paroles des salariés, les paroles des encadrants, en tout cas tous les gens qui étaient sur TZCLD à Laval. Plus les élus, et puis les personnages un peu historiques que sont Patrick Valentin, qui était le fondateur de TZLD, Claire Hédon, qui est actuellement la défenseure des droits, qui avait donc une parole double, puisque à l'époque, elle présidait ATD Quart Monde, donc elle a été au moment où, du lancement en fait, du projet. Le registre dans lequel se situe ce projet, c'est quand même celui du droit au travail, du droit à l'emploi pour tous, qui figure dans la Constitution, dans les préambules de la Constitution et de 46 et de 58.
Alors au moment où vous commencez à vous pencher sur ce projet-là, vous vouliez poser un regard critique sur le dispositif.
C'est-à-dire au début, j'en ai pointé les limites, c'est-à-dire je considérais que le choix d'un territoire, c'est super, mais en même temps, le territoire, il est défini par un boulevard, et celui qui habite d'un côté du boulevard, il a le droit à l'emploi, et celui qui habite de l'autre côté, il n'y a pas droit. Bon, c'est le principe, en fait, des territoires. Donc je trouvais que c'était quand même une limite, mais en même temps, bon, c'est la règle. Et puis, ils sont passés de 10 territoires à 60, à 80, là, les choses vont s'élargir. Le but, effectivement, c'est de faire en sorte que ceux qui sont de l'autre côté du boulevard puissent avoir les mêmes droits que les autres.
Avec le recul, en regardant votre film quelques années plus tard, on se rend compte qu'il y a eu des temps forts, et un de ces temps forts, ça a été de convaincre le Parlement d'adopter cette loi.
Or, ils ont réussi quand même à prouver que non seulement ça coûte rien, mais il est possible que ça rapporte quand même, à un moment donné. Et puis deux, il s'agissait surtout de ne pas s'attaquer au sacro-saint dogme de notre économie, à savoir la concurrence libre et non faussée. Donc il s'agissait de dire que cette chose-là, on la ferait pour autant qu'on ne fasse pas concurrence, évidemment, aux gens qui, eux, ne sont pas, ne reçoivent pas d'aide, quoi, voilà. Et donc de chercher des emplois, des domaines d'activité qui n'entrent pas en concurrence.
En filmant ces parcours, vous avez suivi des personnes qui entraient peu à peu dans ce dispositif. Qu'est-ce que vous avez pu observer entre les attentes qu'elles avaient au départ et ce qu'elles ont réellement vécu au fur et à mesure que l'expérience avançait ?
Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est faire contre mauvaise fortune bon cœur. D'une certaine façon, c'est des gens qui ont connu quelquefois 4 ans, 6 ans, il y en a même une 18 ans de chômage. Maintenant qu'ils ont trouvé un travail, ils en parlent comme si tout ça était oublié derrière eux, sans qu'il y ait la moindre trace de ressentiment. Il y a une sorte de joie. C'est pas démonstratif, mais dans la manière dont ils parlaient, il y a toujours dans leur discours une espèce de distance qui fait qu'ils parlent du passé comme si c'était un passé lointain, alors que c'était il y a un an ou deux. Mais il s'est passé suffisamment de choses pour que, d'une certaine manière, ils considèrent que c'est une chance. On n'est pas dans le travail obligatoire. C'est pas on vous propose du boulot, vous avez intérêt à le prendre. Tous ces gens-là sont des gens qui ont dit « Ok, d'accord, je veux bien ».
Quand on parle d'étendre ce dispositif à plus grande échelle, la question de sa rentabilité et des freins éventuels se pose forcément. Patrick Valentin, quels sont, selon vous, les principaux obstacles à une généralisation plus large de territoires zéro chômeur de longue durée ?
C'est vrai que c'est de l'investissement social. Mais alors, ce qui va freiner, c'est l'aspect comptable des budgets. Ça va être délicat, il y a du travail à faire, mais ce n'est pas du tout impossible. D'ailleurs, je crois que je le dis dans le film, c'est cette comptabilité des entreprises va nous aider grandement, je pense. Oui. Parce que y a une évidence. Une évidence comptable, ça les gens en ont besoin.
Territoire zéro chômeur de longue durée ne coûte pas plus, il transforme le coût du chômage en emploi utile. Moins d'allocations, plus de salaires et des vies qui reprennent leur place. Reste une question, osera-t-on demain généraliser l'expérimentation ?
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Ce reportage est signé Margot Doucet pour L'Autre Radio. L'auditeur de L'Autre Radio attendait peut-être la chronique Un autre écho de l'écho. Et alors, je vous le dis, elle reviendra bel et bien avec Soizic le 12 novembre dans votre émission quotidienne L'Agité du Local. Pour l'heure, bien votre émission quotidienne s'arrête maintenant. Merci à Maria d'être venue nous parler dans le studio de L'Autre Radio. Merci à Lénaïque Folzour qui signe la musique originale de cette émission. On regarde ensemble quand même ce que l'on écoute sur les ondes de L'Autre Radio. Aujourd'hui, ce soir à 19h, c'est l'émission Novorama. Cette émission nous invite à découvrir le meilleur des nouvelles sorties indie rock, pop et électro, ponctuées évidemment d'interviews d'artistes émergents à suivre de près. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Ce sera le grand format, on s'intéressera à la situation des mineurs isolés en Mayenne, ces jeunes venus de Guinée, du Mali ou d'Afghanistan qui se retrouvent sans hébergement, sans statut, sans protection. On se posera cette question: jusqu'où peut aller la solidarité citoyenne quand l'État ne répond plus? D'ici là, accordez-vous un milieu de semaine tranquille et s'il vous plaît, faites le bien.
Alors Mimi, on leur dit au revoir ?
Oh non, juste à demain.